France Inter.
Et 19h, c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonsoir Éric.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'Allemagne met la barre à droite. Une heure après la fermeture des bureaux de vote pour les législatives, les sondages sortis des urnes donnent une large victoire aux conservateurs de Friedrich Merz devant le parti d'extrême droite de l'AfD qui réalise le meilleur score de son histoire. Nous serons en direct au QG de la CDU conservatrice en début de journal. Cela fera 3 ans demain, la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky se dit aujourd'hui prêt à quitter la présidence immédiatement en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Nous serons à Kiev. À la une également, Mohamed Amras qui sera remis à la France par les autorités roumaines d'ici 30 jours. Arrivé tout sourire cet après-midi au tribunal de Bucarest, encadré par les forces de l'ordre. Nous serons au Salon de l'Agriculture à Paris, où Jordan Bardella a multiplié les selfies et lancé une campagne contre le Green Deal, symbole, selon lui, de l'écologie punitive. Le sport, avec le rugby, tournoi destination, la France bat l'Italie 73-24. Et nous serons en Suisse pour la fin des championnats du monde de biathlon. La France repart avec 13 médailles, dont 6 en or. Un livre à la fin de ce journal. À moins d'une semaine de la cérémonie des Césars, un très beau livre intitulé « 50 ans de cérémonie des Césars » que nous présentera Corinne Pellissier. Et puis le temps de demain, lundi, Céline Dacosta, ce sera avec le retour de la pluie.
Oui, on va ressortir nos parapluies avec des averses qui concerneront surtout la moitié nord.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. En Allemagne, donc, les conservateurs de Friedrich Merz remportent les élections législatives. Les sondages sortis des urnes publiés par les chaînes de télévision allemandes donnent la CDU-CSU largement en tête devant le parti d'extrême droite AfD qui réalise le meilleur score de son histoire. Bonsoir Sébastien Baer.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Vous êtes au siège de la CDU conservatrice, donc où Friedrich Merz semble avoir les cartes en main désormais pour remplacer le social-démocrate Olaf Scholz au poste de chancelier.
Absolument. Il y a quelques minutes, Friedrich Merz est d'ailleurs apparu à la tribune installée ici au siège de la CDU dans le centre de Berlin, accueilli par des applaudissements, large sourire. Il a remercié, il a félicité les cadres de son parti, les militants, pour cette belle victoire, a-t-il dit. Son parti conservateur, vous l'avez rappelé Eric, arrive en tête, 29% des voix. Il devance l'extrême droite, 19,5% pour l'AfD. C'est un résultat historique, presque le double de celui obtenu par le parti lors des législatives de 2021. Le grand perdant ce soir, c'est Olaf Scholz. Le chancelier, qui disait croire encore en ses chances ces dernières heures, obtient 16% des suffrages. Olaf Scholz, qui a fait une très courte déclaration pour dire qu'il assume la responsabilité d'une défaite amère, une défaite qui ne surprend pas Sébastien Haas, un cadre du parti conservateur CDU.
Ce qui est clair, c'est que le gouvernement précédent d'Olaf Scholz vient à sa fin. 3 ans d'agonie politique. Les Allemands demandaient et aspiraient à autre chose. Ils voulaient un changement de politique. Friedrich Merz a formulé un cap très clair sur les grands axes, que ce soit l'économie, l'Europe, les questions migratoires. Ce sont ces propositions qui ont obtenu le plus de voix aujourd'hui et qui seront la base de toute négociation avec d'éventuels partenaires politiques pour la formation d'un gouvernement.
Le vainqueur du soir, Friedrich Merz, 69 ans, souhaite que les choses aillent vite. Il veut former un gouvernement dès que possible. Ce soir, on fait la fête. Demain, on travaille, a-t-il dit. Le futur chancelier qui va maintenant se mettre en quête de partenaires, sans doute le Parti social-démocrate. En 2021, Olaf Scholz avait eu besoin de 2 mois pour monter sa coalition.
Sébastien Baer, en direct de Berlin. Comment s'adresser à Donald Trump sans le froisser? Eh bien voilà le numéro d'équilibriste auquel s'est livré cet après-midi le président ukrainien lors d'une longue conférence de presse, car cela fera 3 ans demain qu'a commencé l'invasion russe en Ukraine. Désormais donc, il faut composer avec Donald Trump qui veut régler ce conflit directement avec la Russie, sans l'Europe et sans le président ukrainien. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Volodymyr Zelensky d'avoir, dit-il aujourd'hui, toujours confiance en Donald Trump. Bonsoir Agathe Mahuet.
Bonsoir.
Envoyée spéciale à Kiev. Vous avez donc suivi cette conférence de presse où Volodymyr Zelensky est donc resté ferme tout en évitant de contrarier le président américain.
Oui, d'autant qu'il a été grandement question de cet accord que Donald Trump veut conclure avec l'Ukraine sur ses terres rares. « Nous progressons », assure ainsi Volodymyr Zelensky, dévoilant que des fonctionnaires américains et ukrainiens ont échangé aujourd'hui à ce sujet. Mais ce progrès semble tout relatif. « Je ne signerai pas quelque chose qui sera payé par 10 générations d'Ukrainiens », nuance le président, en suite noire dans cette salle de conférence d'un grand hôtel de Kiev, devant 200 journalistes. Lui qui est revenu aussi sur ses derniers contacts avec son homologue américain, souvent avec un petit sourire en coin vu les tensions de ces 10 derniers jours. « Ma relation avec Donald Trump, elle n'a jamais été aussi bonne », ironise-t-il, avant de préciser qu'il n'y a de toute façon pas de place pour l'émotion. « Non, je n'ai pas été offensé par ce terme de dictateur employé par Donald Trump. Vous savez, ce sont les vrais dictateurs qui se vexent. Lui jure ne pas s'accrocher au pouvoir. Je suis prêt, dit-il, à quitter la présidence immédiatement en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. » Quant à ses alliés européens, Volodymyr Zelensky en accueillera une partie demain, ici à Kiev, pour un sommet dont il espère que cela représentera un tournant.
Agathe Mahué, en duplex de Kiev. Et voilà un nouvel argument que vient de donner le président russe pour justifier cette guerre en Ukraine. Argument religieux cette fois. Dieu l'a voulu ainsi, a dit ce matin Vladimir Poutine. Dieu et le destin m'ont confié à moi et à l'armée la mission de défendre la Russie. Fin de citation. C'est la dernière trouvaille d'Elon Musk, chargé de faire des économies dans les services publics. Il propose aux fonctionnaires fédéraux une méthode particulièrement humiliante. Les fonctionnaires fédéraux ont 48 heures pour rendre compte par écrit de leur activité de la semaine, faute de quoi leur emploi pourrait être menacé. Les détails dans cette correspondance de Loïc Loury à New York.
Qu'avez-vous fait la semaine dernière? C'est l'objet d'un email reçu par une partie des employés fédéraux du FBI au département d'État, en passant par celui des anciens combattants ou de l'environnement. D'ici demain minuit, les fonctionnaires visés devront en principe décrire 5 tâches accomplies la semaine passée et toute absence de réponse, affirme Elon Musk sur X, sera considérée comme une démission. La méthode n'est pas inédite. L'homme le plus riche du monde l'avait mise à l'épreuve en 2022 après son rachat du réseau Twitter. Au sein de l'administration fédérale, difficile toutefois d'y voir plus, pour l'instant en tout cas, qu'une énième tentative d'intimidation. Elon Musk lui-même a semblé modérer son propos. Un email, dit-il, avec quelques points qui tiendraient la route fera très bien l'affaire. Certaines agences ont aussi conseillé à leurs employés de ne pas répondre à ces menaces. New York, Loïc Loury, France Inter.
Un avion d'American Airlines détourné sur Rome ce soir suite à une alerte à la bombe. Il y a 199 passagers à bord, partis de New York pour New Delhi. Shiri Bibas et les deux garçonnets Ariel et Kfir, symbole en Israël de la tragédie des otages du 7 octobre. Les enfants et leur mère défunte donc seront enterrés mercredi. C'est ce que vient d'annoncer leur famille.
France Inter, Éric Delvaux.
Mohamed Amra, qui jusqu'à hier était le Français le plus recherché, sera remis à la France par les autorités roumaines d'ici 30 jours. Le narcotrafiquant a été arrêté hier à Bucarest. Une dizaine d'autres personnes sont en garde à vue en France comme en Europe. Je rappelle qu'en mai dernier, Mohamed Amra s'était fait la belle, extrait de son fourgon lors d'un transfèrement par un commando lourdement armé qui avait tué 2 surveillants. Et bien aujourd'hui à Bucarest, Mohamed Amra est arrivé tout sourire au tribunal, sérieusement encadré par les forces de l'ordre. Correspondance de Paul Kosigian.
Il est 15h15, heure de Paris, quand Mohamed Amra est descendu d'un fourgon de police. Il est menotté et entouré par une demi-douzaine de policiers lourdement armés. « Pourquoi t'as choisi la Roumanie ?» lui demande une journaliste locale dans l'allée derrière le bâtiment de la cour d'appel de Bucarest. Mohamed Amra lui répond par un sourire narquois. De ses propres aveux, il était venu en Roumanie à la recherche d'un institut de chirurgie esthétique pour changer de visage. À peine une heure plus tard, l'homme le plus recherché de France sort du tribunal serein, lançant des sourires aux paparazzis sur place. Le juge vient d'ordonner sa mise en détention pour une durée de 30 jours. Mohamed Amra n'a pas l'intention de faire appel. Amra accepte donc son extradition. Bucarest, Paul Cosigan, France Inter.
À Mulhouse, garde à vue prolongée pour l'assaillant qui a tué un passant à coups de couteau hier au cri de Allah Akbar. Il y a 7 blessés, dont un policier municipal grièvement atteint. 2 membres de l'entourage de l'agresseur ont également été interpellés, ainsi que son logeur présumé. Je rappelle que le suspect est un Algérien de 37 ans, visé par une obligation de quitter le territoire français, radicalisé, décrit psychologiquement instable. Et dans la ville du Haut-Rhin, eh bien, les habitants étaient aujourd'hui encore sous le choc. Reportage de William Delesseux avec Jérémy Tuile.
La devanture jaune du marché couvert et tout autour les rubans police qui rappellent ce qui s'y est déroulé il y a maintenant un peu plus de 24 heures. Les habitants passent, certains s'arrêtent pour avoir une pensée envers les victimes de l'attentat. L'homme de 69 ans tué par l'assaillant, les agents de stationnement ou encore les policiers municipaux blessés.
On est choqués, ça fait mal au cœur.
La vie continue, je suis désolée pour les gens qui ont été vraiment atteints profondément. Et ma foi, l'insécurité est là. On ne va pas marcher avec les yeux derrière la tête, on n'y arrivera pas. Alors là, il faut prendre le problème à la source. Que chaque pays accepte qu'on leur fasse retourner ces personnes-là. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. C'est une personne qui devrait retourner chez elle.
Des habitants qui se questionnent, la mairie a appelé au calme. Un moment de recueillement collectif aura lieu prochainement dans la ville. Mulhouse, Jérémy Tuile, William Delesseux, France Inter.
Après Emmanuel Macron hier et avant François Bayrou demain, c'était aujourd'hui au Salon de l'Agriculture la journée Jordan Bardella. Le président du Rassemblement National appelle à mener la campagne contre le pacte vert, inspiré selon lui de l'écologie punitive. Bonsoir Marie Mollet.
Bonsoir.
Vous avez suivi Jordan Bardella, roi des selfies aujourd'hui dans les allées du Salon, en même temps qu'il a lancé des piques à ses adversaires.
Oui, Jordan Bardella qui plonge la main dans le pelage d'une vache limousine ou qui surjoue les bons vivants, chope de bière et farandole de saucisson.
Bah, je vais pas dire non.
Vous êtes nous avoir fait venir, je crois, tout manger. Hein.
Ouais, je vais trinquer avec toi.
De belles images pour la télé, devant un public souvent conquis.
Patient, c'est Jordan. Il est mieux en vrai que la télé, je trouve.
Président de la République.
Quelques échanges rapides avec les agriculteurs pour cogner sur l'Europe et le Green Deal.
Le pacte vert, les directives européennes qu'on surtranspose, les accords de libre échange avec le Mercosur, tout est fait pour qu'on arrête le métier d'agriculteur.
Mais le patron du RN est venu aussi pour attaquer ses rivaux. Bruno Retailleau d'abord, au lendemain de l'attaque terroriste de Mulhouse. Jordan Bardella, l'as du selfie, l'accuse de trop communiquer sans agir.
Maintenant, il faut agir ou partir. Les effets de com', c'est très beau quand on est à la télévision, mais quand on n'agit pas derrière, c'est la sécurité des Français qui est en jeu.
Et puis, il réserve ses flèches à Emmanuel Macron, à la veille de la rencontre entre le président français et Donald Trump.
Tant que le président de la République française sera considéré comme le collaborateur de la présidente de la Commission européenne, alors la voix de la France et la voix de la diplomatie française ne sera ni entendue, ni écoutée, ni même respectée de par le monde.
Une leçon de diplomatie, alors que lui-même vient de rater sa tournée américaine. Jordan Bardella devait intervenir sur scène lors d'un grand raout conservateur. Discours annulé après un salut nazi d'un autre orateur.
Marie Mollet au Salon de l'Agriculture avec les moyens techniques de Virginie Lorda. Ce sera jeudi à Paris. Patronats et autres syndicats entameront une concertation sur la réforme des retraites. Ce matin, dans la tribune dimanche, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, a assuré que le gouvernement n'interférerait en rien dans les négociations. Et bien sûr, LCI, à la mi-journée, un autre ministre, Laurent Saint-Martin, en charge du commerce extérieur, disait au contraire tout le mal qu'il pense d'une remise en cause du départ à 64 ans.
Si c'est pour déséquilibrer plus encore le système de retraite, je pense que c'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave pour nos propres finances publiques, pour le refinancement de notre dette. Juste un mot là-dessus, parce que ce que je dis, c'est qu'équilibrer un modèle de protection sociale, c'est le béaba dans un pays. Et je ne vois pas pourquoi la France serait incapable d'être au rendez-vous là-dessus. Équilibrer un système de protection sociale qui est le plus généreux du monde, mais qui, par un certain nombre de déséquilibres démographiques, d'actifs par rapport aux retraités, vis-à-vis de notre système de soins, doit être repensé pour être plus équilibré. Je crois que les Français le comprennent très bien. On leur demande bien d'équilibrer leur budget en tant que ménage.
C'est la plus grosse affaire pédocriminelle jamais jugée en France. À partir de demain, l'ancien chirurgien Joël Le Squarnec, 74 ans, comparaîtra devant la cour criminelle du Morbihan pour des agressions sexuelles ou des viols commis durant plus de 30 ans dans une dizaine d'hôpitaux et de cliniques de l'Ouest de la France, là où il a exercé. Les faits se produisaient pendant l'anesthésie générale, 314 victimes recensées, âgées de 11 mois jusqu'à 70 ans, des hommes, des femmes et des bébés. Donc aussi, les deux tiers des victimes devraient être présentes demain à Vannes. Jean-Philippe Degnaud.
Toute sa vie, Joël Le Squarnec s'est revendiqué fier d'être pédophile avant de progressivement admettre au cours de l'instruction l'ampleur de ses perversions. Interrogé sur chacune des victimes pour lesquelles il avait rédigé les récits de ses agressions sexuelles ou de ses viols, le chirurgien en reconnaîtra une grande majorité. Parfois, il dira qu'il ne se souvient pas mais que ça doit être vrai. Pour d'autres, il contestera en expliquant qu'il a juste effectué un geste médical approprié et que ses écrits ne sont en fait que le fruit de ses fantasmes. À maintes reprises, Le Squarnec accompagnera ses aveux de regrets et d'excuses pour les victimes dont la plupart ont été abusées sous anesthésie ou en phase de réveil. À la révélation de ce qu'elles avaient subi, passé le choc, un tiers d'entre elles ont également vécu le réveil d'un souvenir enfoui et ont pu mettre des mots sur un mal-être, voire des dépressions dans lesquelles elles étaient plongées sans en connaître la cause jusque-là. Certaines ont pu se réparer depuis, mais d'autres viendront exposer à la cour le poids de leur traumatisme qui ne s'efface pas.
L'ancien chirurgien risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle et le verdict sera rendu courant juin. Le rugby, tournoi destination. La France a battu l'Italie cet après-midi, 73 à 24. Les Français prennent donc la deuxième place du tournoi avec 11 points à 3 longueurs de l'Irlande. Ce sera leur prochain adversaire le 8 mars. À Dublin. La fin des championnats du monde de biathlon en Suisse à Lenzerheide. La Norvège a réalisé un triplé cet après-midi lors de la Mass Start masculine, départ en masse sur 15 km. Le premier français Eric Perrault arrive 7e. Bonsoir Jérôme Val.
Bonsoir Eric.
Vous êtes en direct de Suisse. La France repart donc de ses mondiaux avec 13 médailles, dont 6 en or.
Une insolente réussite de ces bleus. Et si on devait en retenir un symbole, eh bien c'est le sourire cet après-midi d'Océane Michelon, 22 ans à peine, déjà sacrée sur le relais féminin hier. La Savoyarde a décroché la dernière médaille française, de l'argent sur la Mass Start. Elle a presque dû se pincer pour y croire.
C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose à vivre. Et punaise, c'est mon premier podium individuel, mon premier podium en championnat du monde pour mes premiers championnats. Bref. Plein de premiers qui se valident, donc plein d'émotions, donc ouais, je réalisais pas trop et j'ai pris la tête dans mes mains pour réaliser un peu tout ce qui se passait, ouais.
Océane Michelon, mais aussi les 5 autres athlètes de cette équipe de France qui ont obtenu des médailles individuelles, sans compter les relais qui ont gagné 3 des 4 courses dans ces mondiaux. Les Bleus font donc avec ces 13 médailles aussi bien que l'an passé et pas grand monde n'imaginait qu'ils seraient capables de rééditer cette performance, à commencer d'ailleurs par le directeur des équipes de France lui-même, Stéphane Boutiot.
Je suis d'autant plus heureux que je m'étais bien planté en début des mondiaux et que je suis vraiment heureux de m'être planté. Non, le bilan il est exceptionnel, 13 médailles, 6 titres, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là, donc tous les athlètes ont répondu présent, donc non, super heureux.
Alors ces mondiaux se terminent, vous l'avez dit Eric, sur une fausse note si on peut dire, hein, parce que la Mass Start homme, il n'y a pas eu de podium tricolore mais un triplé norvégien, mais voilà quand même les Bleus lancés à pleine vitesse vers désormais le prochain objectif majeur, les Jeux Olympiques en Italie dans un an.
Jérôme Val en direct de Suisse. Ce sera vendredi prochain 20h45, la cérémonie des Césars, le rendez-vous des professionnels du cinéma. Et en attendant de savoir qui d'Emilia Pérez, de Monte Cristo ou bien de l'amour ouf remportera le plus de récompenses, nous vous proposons ce soir une plongée dans les archives de cette cérémonie avec ce très beau livre sorti aux éditions EPA intitulé 50 ans de cérémonie des Césars. Le livre est signé Thierry Lacaze. Un livre de souvenirs, parfois très émouvant, Corinne Pellissier.
Je sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué follement, éperdument.
De l'émotion, des coups de gueule, des rendez-vous manqués, des hommages, 50 années qu'à la télé, la cérémonie des Césars le fait rêver. Thierry Lacaze, responsable aujourd'hui de la distribution dans un grand studio, tombé enfant dans la magie du cinéma, se souvient très bien du poignant discours d'Annie Girardot en 96 ou du show de Coluche 12 ans plus tôt avec son franc-parler, son perfecto.
Je me croyais franchement à l'abri. Vu que je faisais du cinéma qu'on ne récompense pas.
Ça peut récompenser l'esquive de Kechiche, mais ça peut aussi récompenser la comédie populaire quand elle est réussie.
Des souvenirs qu'il compile dans un ouvrage rempli de photos, de références et d'anecdotes autour d'une institution souvent critiquée mais que tout le monde regarde.
Même sur les cérémonies où on a pu discuter du palmarès, qu'un tel n'était pas bon, il y a eu au moins 2-3 bons moments à chaque fois.
Tous les temps forts, les moments chocs, les petites phrases, jusqu'aux films les plus nommés, repartis bredouille, ou encore ces dates qui ont révolutionné tourner l'histoire des Césars l'année 2020.
Ça a été le geste d'Adèle Haenel de quitter la cérémonie à la suite de la 5e victoire de Roman Polanski. Il fallait parler de ça parce que ça fait partie de l'histoire des Césars.
Un livre didactique qui revient aussi sur 50 ans de revendications.
Que ce soit pour les intermittents, que ce soit pour les accords du GATT à l'époque.
Depuis la toute première édition en 76 et ses 15 millions de spectateurs.
Le livre 50 ans de cérémonie des Césars, 40 euros aux éditions EPA. Et rendez-vous donc vendredi prochain pour le palmarès 2025. Et puisqu'on en est aux remises de prix, Eva Bétan, qui supervise le livre inter, nous sommes de vous rappeler, chers auditeurs, que vous avez jusqu'à lundi 3 mars inclus pour envoyer votre candidature. Si vous souhaitez faire partie des 24 jurés du livre inter, soumettez-nous donc votre candidature, soit par le site internet franceinter.fr ou bien par courrier postal France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris, CEDEX 16. Enfin, une chanson française vient de passer aujourd'hui le milliard de connexions sur YouTube, le titre Dja Dja que chante Aya Nakamura.
Oh Dja Dja, y a pas moyen Dja Dja, j'suis pas ta cata Dja Dja, genre en katana baby tu dettes ça.
Oh Dja Dja, sorti en 2018 par Aya Nakamura, un titre interprété lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris avec la garde républicaine dansant sur le pont des Arts à Paris. Ce titre passe donc aujourd'hui 1 milliard de vues sur YouTube. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On va démarrer la semaine avec un ciel plus perturbé qu'aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, c'est la perturbation arrivée aujourd'hui sur le nord-ouest qui va gagner toute la moitié nord demain. Des averses qui seront plus fréquentes, plus marquées demain après-midi entre les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes et les frontières belges. Pour la moitié sud, ce sera plus calme avec pas mal de grisailles le matin, mais après dissipation de ces brumes, ce sera un soleil voilé. Par contre, sur les régions méditerranéennes, les nuages vont résister, on pourrait même avoir quelques ondées dans la journée.
Et la douceur toujours.
Oui, on va commencer à perdre quelques degrés, mais tout doucement, ça reste quand même encore très très doux. Les maximales iront de 10 à 18 degrés du nord au sud. Frais encore le matin, avec le ciel qui sera un petit peu plus dégagé, du sud-ouest au grand-est, avec 3 à 8 degrés. 7 à 11 degrés pour les autres.
Merci Céline Dacosta.